La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Les journaux au Mexique et aux États-Unis signalent les premières arrivées de caravanes de migrants à la frontière.
Oui, ces caravanes qualifiées d'invasion migratoire par Donald Trump pendant la campagne des élections de midterms et qui prennent donc la forme depuis hier de 350 migrants débarquant sac au dos sur la plage frontalière de Tijuana. Sur les images qu'en montre la chaîne mexicaine Televisa, on voit cette fameuse plage séparée en deux par une haute palissade de métal ajouré rapidement escaladé par quelques dizaines de jeunes hommes. Ceux qui ont tenté de passer ont été arrêtés dans le calme par les gardes frontières américains, nous raconte également Uno TV. Pour le moment, on parle donc bien de 350 personnes. Ce n'est, nous explique le quotidien La Jornada, qu'une petite partie de la principale caravane, partie il y a un mois du Honduras et du Guatemala, et qui se trouve encore, elle, à un millier de kilomètres de la frontière. Car ceux qui arrivent depuis mardi à la frontière, ce sont pour beaucoup des homosexuels ou des transsexuels qui fuient les violences homophobes dans leur pays d'Amérique centrale et qui ont fait caravane à part pour ne pas risquer de subir des discriminations de la part des autres migrants. Mais ce qui les attend, à lire le site américain Vice News, c'est très éloigné de l'Eldorado dont ils ont rêvé pendant tout leur voyage. Les délais pour déposer sa demande d'asile aux États-Unis s'étalent déjà sur des semaines, voire des mois. Et surtout, la frontière a été lourdement militarisée ces derniers jours en prévision de leur arrivée. Plus de 5000 soldats américains déployés sur ordre de Donald Trump ont déroulé des kilomètres de barbelés ces derniers jours pour rendre plus dissuasives encore les barrières existantes. Les États-Unis se sont blindés, titre le Diario de Tijuana, et la raison d'être de cette opération militaire continue d'interroger les médias américains comme BuzzFeed News. Officiellement, les soldats ne devront à aucun moment être au contact des migrants, c'est le travail des gardes-frontières. L'armée n'est donc là qu'en soutien logistique pour gérer l'infrastructure frontalière. Sauf que, une fois les barbelés installés, les soldats s'ennuient ferme et à l'approche des fêtes de Thanksgiving, ils ont le moral dans les chaussettes, nous dit Business Insider. Même la visite hier du secrétaire à la Défense, Jim Mattis, au Texas, ne les a pas franchement remotivés, selon BuzzFeed. À leur question sur la raison de leur présence et la durée de leur mission à la frontière, le ministre leur a répondu qu'il fallait être fier de servir la nation et prendre son mal en patience avant de tenter un trait d'humour. Vous n'avez qu'à considérer ça comme un long exercice militaire.
Et puis Camille, dans la Corne de l'Afrique, l'Érythrée franchit un pas important vers un retour à la respectabilité internationale.
Et ce petit pays, parfois et un peu rapidement qualifié de Corée du Nord africaine cette dernière décennie, a vu hier les sanctions internationales qu'il a frappées depuis 2009 levées à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. Si l'Érythrée avait été mise au banc de la communauté internationale, nous rappelle la BBC, c'est parce qu'elle était accusée d'héberger et d'armer les djihadistes somaliens d'Al-Shabaab. Mise au banc également pour ses violations criantes des libertés individuelles, une chape de plomb politique et économique qui avait poussé à l'exil des dizaines de milliers de jeunes érythréens ces dernières années. Mais depuis le printemps, le pays s'efforce de normaliser ses relations avec son autre voisin, l'Éthiopie, avec lequel il était en conflit depuis 10 ans. Les deux ennemis d'hier multiplient les signes d'ouverture et d'amitié retrouvés, et ça a convaincu donc l'ONU de donner une nouvelle chance à l'Érythrée. Une autre raison de ce retour en grâce, évoquée cette fois par The African Argument, c'est que l'Érythrée profite depuis quelque temps de la guerre au Yémen, de l'autre côté de la mer Rouge. Cette guerre lui a permis de gagner le soutien précieux de l'Arabie Saoudite en acceptant d'accueillir sur son territoire des bases militaires de la coalition arabe. Mais pour Marie Harper de la BBC Afrique, le plus dur reste à faire pour l'Érythrée, qui désormais ne peut plus se cacher derrière le conflit avec les Éthiopiens ou derrière les sanctions internationales pour justifier les privations quasi totales de liberté, le service militaire sans fin et l'absence d'élections libres qu'il continue d'imposer à sa population.
Et puis vous souhaitez conclure cette revue de presse internationale, Camille, par la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, tandis que la ministre, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, s'installe. Bonjour Madame la Ministre. À sur fond de procès et de procès d'un certain nombre d'opposants au régime. Expliquez-nous ça.
Oui, cette visite d'Emmanuel Macron, visite éclair, comme nous l'annonce le portail d'info marocain H24, à l'invitation du roi Mohamed VI pour inaugurer avec lui la ligne de train à grande vitesse Tanger-Casablanca. Dans la gare TGV flambant neuve de Tanger, Emmanuel Macron n'aura sans doute pas le temps de s'arrêter au kiosque pour y lire l'hebdomadaire tel quel. Et c'est dommage, il aurait pu y trouver un sujet de discussion avec son ami le roi, car depuis lundi se déroulent les procès en appel de 52 militants du Irak, ce mouvement populaire de contestation sociale qui était né dans le RIF en février 2017, qui avait mobilisé des dizaines de milliers de Marocains pendant 5 mois avant d'être consciencieusement réprimé par les forces de sécurité du royaume. Tel quel donc nous rappelle que les militants jugés ont écopé pour certains de 20 ans ans de prison en première instance et l'on craint que l'appel ne leur soit pas plus clément, comme semble le montrer d'ailleurs une première sentence prononcée hier, 5 ans ferme confirmée pour l'une des figures du Irak, El Mortada Yamrachen. Lui a été condamné pour apologie du terrorisme pour des messages postés sur Facebook. Et pourtant, le jeune homme s'est toujours défendu de tout lien avec les djihadistes, lui qui défend sur les réseaux sociaux une vision d'un Maroc laïque. Pour le site d'investigation Le Desk, la chose est entendue. Yamrachen, c'est un innocent condamné par une justice vengeresse. Il est victime d'une évidente erreur judiciaire, embraye Amnesty International Maroc, pour qui la condamnation en appel du militant, c'est un nouveau coup consternant porté à la liberté d'expression au Maroc.
Merci Camille Magnard.